Je sais pas pour vous, mais moi, hier, j'ai eu du mal à dormir. Il y avait l'inquiétude de la journée, de ce qui va possiblement venir, et puis déjà, quand même, l'excitation d'en sortir de cette journée, de ces journées. C'est allé un peu mieux une fois, la nuit tombée, quand j'ai ressenti ce furieux besoin, non pas d'aller me coucher, mais de me relever, justement, la nuit, quand tout est endormi, parce que, comme l'écrivait Vladimir Yankelevitch dans ce texte magnifique sur les nocturnes romantiques, la nuit, tout est encore possible. Quand la lumière nous révèle un monde cloisonné, compartimenté, la nuit fait disparaître les frontières. Dans le noir, écrit-il, toutes sortes de communications magiques. Le courant s'établit aussi immédiatement que l'éclair et rend vraisemblables les analogies les plus bizarres, les calembours et les accouplements les plus saugrenus. Tout est permis, n'importe quoi déteint sur n'importe quoi, et chaque être participe de tous les êtres. Fini les travaux forcés de la médiation et la patience et la labeur et l'étroitesse. C'est l'armée immense des possibles, complice et ami de toutes les contrebandes. L'obscurité noie dans ses effluves les durs dilemmes du savoir. Tout est facile et romanesque. Le rêve rejoint la plus médiocre réalité et les lourdes ailes de l'espérance battent follement sous les étoiles. Comment voulez-vous dormir avec ça? En attendant les couvre-feux demain ou après-demain, j'ai envie de partir là où seule la nuit peut nous emmener loin.
Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quel mystère, quelle limite, quelle passion. Mon invité d'aujourd'hui a-t-elle trouvé en s'abandonnant à la nuit? Inspiratrice, idole, amie éternelle d'Yves Saint-Laurent, elle a brûlé sa vie par les deux bouts auprès de l'un des plus grands artistes du siècle dernier. Une belle exposition leur est actuellement consacrée au musée Yves Saint-Laurent, à tous les deux. Bonjour Betty Catrou.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avant toute chose, la nuit, pourquoi est-ce que vous l'aimez tant, vous? Pourquoi est-ce que vous l'avez tant aimé?
La nuit est un moment magique où on peut rêver, faire n'importe quoi.
Tout est possible?
Tout est possible, absolument. Il n'y a pas de barrière. Surtout à l'époque où je l'ai vécu, où on pouvait faire tous les excès du monde. Et voilà, donc c'était beaucoup mieux que le jour.
À quoi elles ressemblaient vos nuits blanches du temps de Saint-Laurent?
C'est le cas de dire, elles étaient blanches. Elles ressemblaient à rien, parce que c'était surréaliste. On était tout le temps dans un état second. On traînait dans des endroits les plus amusants. Le plus amusant de tous étant un endroit qui s'appelait le 7, rue Sainte-Anne, et qui était absolument fascinant. C'était un restaurant avec une boîte de nuit en dessous. On dînait, si on s'ennuyait, on descendait dans la boîte de nuit. Le public était une faune follement mélangée, passionnante. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est que j'ai vu Francis Bacon, ivre mort, couché sur une table dans cet endroit.
C'est un souvenir qui marque.
Ah, c'est ce qui m'a le plus marqué de tout. Il n'y avait que des gens beaux, étranges, pas genrés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire?
Ça voulait dire quoi, étrange?
C'est-à-dire que tout le monde était un personnage. Mmh. Maintenant, tout le monde est merveilleux peut-être, mais tout le monde est pareil.
Et puis la nuit, c'est aussi une nuit en particulier, celle où vous avez rencontré Yves Saint-Laurent peut-être. Cette rencontre, Betty Catrou, cette rencontre qui a changé vos vies à tous les deux. Il faut nous la raconter. Comment ça s'est passé?
Ah bah écoutez, je dansais dans une boîte, c'était Régine. Et voilà, et il m'a vu, il a eu un espèce de coup de foudre. Et comme il était timide, enfin en tout cas il faisait semblant d'être timide, il a envoyé un copain à lui me parler, me demander de venir boire un verre à sa table. Et bon, j'ai dit oui, et puis et ça a été le début d'une vie entière ensemble.
Et vous
d'abord,
avez dit
il m'a demandé de défiler pour lui, j'ai dit non.
À Londres.
Et ça l'a rendu fou d'excitation, parce que personne ne lui disait non. Et puis en plus, on était très un peu pareil physiquement. C'était déjà le cuir noir pour lui et pour moi. Il était blond platine comme moi à cette époque. Et puis, je sais pas, il a senti qu'il y avait quelque chose.
Et quelle impression est-ce qu'il vous a fait à vous?
Aucune.
Aucune.
Aucune. J'étais dans mon petit monde à moi. J'avais probablement, comme d'habitude, bu. Je suis pas très terre à terre. Aucune impression.
Pourquoi toutes ces années, jusqu'à sa mort, est-ce que vous êtes resté auprès de lui? Qu'est-ce qu'il vous apportait? Yves Saint-Laurent.
Bah écoutez, d'abord, j'ai bien compris tout de suite qu'il était un génie. Et voilà.
À quoi
et
vous l'avez vu, ça?
Oh, je ne sais pas, ma sensibilité, parce que moi j'en ai beaucoup. C'est tout ce que j'ai, c'est la sensibilité. Et c'est ce qui m'a porté toute ma vie, ma sensibilité. Et dans la bonne direction.
En quoi, pour ainsi dire, est-ce que vous étiez des doubles? tous les deux?
Ça, j'ai découvert après qu'on avait la même sensibilité, justement. Je vous parlais de sensibilité. Mais au début, c'était plutôt physique. Deux grandes tiges blond platine en cuir noir, et qui ne disaient que des bêtises, et qui faisaient du charme, et voilà.
Mais quelles bêtises est-ce que vous disiez?
C'était très enfantin, 4 ans d'âge mental on avait ensemble.
Et comment est-ce que vous vous surnommiez?
Alors, le fameux surnom, c'est Pulu. Mais ça, c'est venu parce qu'il a écrit une espèce de bande dessinée très drôle d'une petite fille qui ne faisait que des bêtises, c'était nous, et qui s'appelait la vilaine Pulu. Et alors, quelqu'un lui a envoyé un télégramme en lui disant « Bravo pour la vilaine Pulu, la personne s'est trompée ». Et voilà, et on a trouvé ça tellement drôle, alors que vraiment, c'est vraiment, il n'y a pas de quoi...
Vous voilà. Étiez...
On a trouvé ça tellement drôle qu'on s'est appelé Pulu, c'était notre petit nom de...
Vous étiez des enfants gâtés?
On était des enfants gâtés, pourris, égoïstes, égocentriques, contre tout, avoir ces espèces de bipolarité, être tout excité, vouloir mourir une minute après. Mais tout était idiot. Et cette fuite du quotidien, qu'on détestait la vie normale, le mot normal nous faisait fuir.
Vous étiez des enfants méchants, Betty Catrault?
Écoutez, moi pas, mais lui oui.
Ah bah ça, c'est effectivement, je vous pose la question, parce que plus d'une fois, vous êtes arrivé de dire que l'un comme l'autre, vous rivalisiez de méchanceté avec le monde extérieur, que rien ne trouvait grâce à vos yeux.
Oui, mais c'est lui qui commençait, et moi je suivais. Mais c'est lui l'âme de la méchanceté. Il se moquait de tout le monde, et personne n'avait grâce à ses yeux. Et moi, trop contente de suivre, parce qu'au fond, je pensais un peu ça aussi. Mais c'est pas moi l'incitatrice.
Vous étiez bien élevée.
Je suis très bien élevée.
Quel genre de petite fille est-ce que vous étiez, Betty Catrault?
Bah, une peu pareil que maintenant, c'est-à-dire anorexique, contre tout, seule dans un coin, ne voulant jamais me mélanger.
Et à quoi elle a ressemblé, votre enfance?
Oh, elle était très confortable, donc c'était agréable à vivre. Mais j'étais ce qu'on appelle un enfant à problème.
Pourquoi?
Bah, déjà, d'être anorexique, on me faisait boire du sang, c'est agréable.
C'est une autre époque.
Comme vous dites. Mais ça m'a pas ouvert l'appétit, comme vous pouvez imaginer.
Je vous pose la question parce que j'ai l'impression qu'Yves Saint-Laurent semblait vivre dans la nostalgie de son enfance.
Lui. Oui, mais moi, pas du tout. Je dirais pas que c'est la nostalgie de son enfance. Et c'est quand il a été adulte qu'il a vécu dans la nostalgie des années d'avant.
D'accord.
Et ça, c'est le contraire de moi. Mmh. Moi, jamais je pense à ce qui s'est passé avant. Jamais. Au contraire, ça m'amuse pas. Le passé, c'est le passé. C'est aujourd'hui et demain qui m'excite. Et lui, il fonctionnait pas du tout comme ça.
Ça veut dire que vous n'avez jamais eu de regrets, Betty Catrault?
Jamais.
Celle qui n'a pas de regrets dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, c'est la culture. Et son actualité sans foi ni loi, que se passe-t-il donc aujourd'hui?
Tony Marshall.
Boum, 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 comme on dit. Je voudrais partager César avec ma mère, c'est Micheline Prel, et bien je le partage avec toi.
Au plus près du paradis, la réalisatrice Toni Marshall s'est éteinte jeudi. Elle avait 68 ans, seule femme à avoir remporté le César de la meilleure réalisation pour Vénus Beauté Institut en 2000. Elle avait débuté sa carrière comme comédienne dans les années 70. C'est à partir de 1989 que Toni Marshall était passée derrière la caméra, signant près d'une dizaine de réalisations, dont Au plus près du paradis ou Numéro 1. Engagée dans le combat pour l'égalité homme-femme dans le cinéma, elle était l'une des figures du mouvement 50-50.
Qu'est-ce qu'il y a dessous? Puis là, on voit en vrai. Enfin, moi, j'étais surprise. On sent qu'il y a des bâtons. En plus, elle les fait sonner. C'est beau.
Giboulée de saison. Le Centre Dramatique National Strasbourg Grand Est inaugure aujourd'hui les Giboulées, Biennale des Arts Marionnettiques, articulée autour du triptyque corps-objet-image. Au programme 22 compagnies, 86 représentations dans 10 lieux de l'Euro-Métropole. On pourra y voir le bestiaire d'Hichem de la circassienne Jeanne Mordoge ou l'Ersatz de Julien Mélano qui croise théâtre et art plastique pour réfléchir à l'avenir de l'homme. Du gel, des gants, en avant! Genoux sur bon tempo, les prestigieux prix Ernst von Siemens qui récompensent chaque année le meilleur de la composition musicale contemporaine sont tombés. Et parmi les jeunes lauréats, le français Samir Amarouche, né en 1991. Il est le premier lauréat à être distingué alors qu'il n'a pas encore fini ses études au Conservatoire de Paris. Influencé par les classiques du XXe siècle, autant que par la musique traditionnelle marocaine ou l'électro, Samir Amarouche a notamment créé Analogie, une pièce pour 16 musiciens jouée en 2018. Et c'est parti pour la semaine de la langue française et de la francophonie. Dès demain, dans toute la France et dans près de 70 pays à travers le monde, la vitalité et le rayonnement de la langue de Molière sont célébrés et mis à l'honneur dans plus de 1500 événements. Parrainés par Emmanuel Laborie et Abdelmalik, la manifestation propose des expos, des ateliers d'écriture, des spectacles, des dictées et même des soirées slam. Il y en aura pour tous les goûts. Programme complet à retrouver sur le site semainelanguefrançaise.culture.gouv.fr. C'est d'enfer! Betty Catrou, invitée de Boomerang ce matin pour cette exposition au musée Saint-Laurent à Paris. Une exposition de pièces de couture, de prototypes, de tenues, mais aussi de photographies, placées sous le signe du double et de la tension entre le masculin et le féminin. Betty, je vous demandais tout à l'heure ce que vous apportait Yves Saint-Laurent. Vous, qu'est-ce que vous lui avez apporté, à votre avis ?
Écoutez, c'est pas à moi de dire ça, mais d'abord, il détestait les bourgeoises. Les femmes conventionnelles. Alors moi, je suis le contraire de ça.
On a compris.
Oui, alors donc, ça l'a beaucoup attiré. Mon physique, probablement, en
oui,
premier.
Une image, un style,
et cette
c'est
espèce
ça.
D'idée qu'il avait au fond de lui de masculiniser la femme. Enfin, je ne sais pas comment exprimer ça.
L'idée d'une femme androgyne, effectivement. Quand est-ce que vous avez commencé à porter les pantalons?
Mais j'ai changé. Toute ma vie, j'étais pareil.
Et comment c'était
perçu ? La même coiffure, les mêmes vêtements. C'est version luxe maintenant, mais toute jeune, c'était version Monoprix.
Oui.
Je veux dire, j'ai toujours été pareil. Je n'ai jamais évolué. C'est peut-être dommage. J'ai toujours été identique dans mon franc-parler, dans mes idées. Je n'ai pas évolué.
Et comment c'était perçu à l'époque ?
Beaucoup moins bien perçu que maintenant. Maintenant, c'est absolument applaudi.
Qu'est-ce qui vous dérangeait, vous, dans ce qui constituait autrefois le vestiaire féminin, Betty ?
Je ne pense jamais aux vêtements. Je me sens fille et garçon, donc je suis en avance. J'étais très en avance. Je suis le premier transgenre de la haute couture. Enfin, je ne sais pas. Je ne me suis jamais vue en femme, ni en homme. Je me vois comme... Je sais pas, un mélange de filles et garçons. Et j'ai surtout compris que j'étais mille fois mieux en garçon qu'en fille.
Alors, quelles étaient les tenues que vous faisiez porter, Yves Saint-Laurent ?
Oh ben, il me forçait à rien. Il me donnait tout. Et moi, je portais ce que je préférais, c'est-à-dire tous les vêtements masculins, tous les costumes
Mais
d'hommes.
Il vous arrivait de pas être à l'aise ?
Ah oui, parce qu'on allait à des horribles soirées mondaines. Et il fallait mettre une robe, et pour lui faire plaisir, il fallait bien faire un petit truc pour lui quand même. Pour lui faire plaisir, je me mettais une robe longue, alors ça, c'est, j'avais envie de mourir.
Alors vous lui disiez ?
Mais évidemment, je disais, ah mais moi je dis tout ce que j'ai sur le cœur. Alors il riait, mais je le faisais quand même pour lui faire plaisir. Mais j'essayais de trouver des robes un peu masculines, vous savez, une robe smoking avec... un truc masculin dedans.
Je me débrouillais. Je veux dire, ce qui me fait rire avec vous, Betty Catrou, c'est que vous êtes, malgré vous, une icône de la mode, mais la mode, vous le dites, vous la détestez.
Ah, ça m'intéresse, mais absolument pas.
Pour quelle raison ?
Je ne sais pas, ça m'intéresse pas. Je trouve que c'est... Puisque je suis habillée comme un curé tous les jours pareil depuis toujours, je m'intéresse pas du tout à la mode.
Ça vous ennuie ?
Un peu, ouais. Un peu beaucoup. Ouais.
Qu'est-ce que vous faites quand quelque chose vous ennuie ? Betty.
Mais je fais rien de toutes les façons. Ça change rien. Mais j'ai quand même une passion qui me porte dans ma vie, c'est la danse. Je vais danser tous les jours de ma vie. Je suis une danseuse ratée, c'est ça.
Vous dansiez avec Saint-Laurent ?
Mais non, mais là on parle pas de danse de boîte de nuit, je parle d'aller à un vrai cours de danse de professionnel.
Vous auriez pu l'ambiance dans un de vos
mais
cours
oui,
de danse.
Mais bon, c'est...
pourquoi ?
Mais d'abord je veux être avec personne que je connais à mon cours de danse, ça me gâcherait tout. Et puis on dansait dans les boîtes de nuit quand on était éméché et déchaîné. Mais enfin.
Vous savez ce que je fais moi quand je m'ennuie ?
Dites.
J'écoute des voix.
Je trouve que à notre époque, au contraire, les femmes sont formidables parce que justement elles se sont dégagées du vêtement pour avoir une attitude tout à fait moderne. Je veux dire que ce qui m'intéresse davantage dans les femmes de notre époque, c'est plus l'attitude qu'elles ont prise devant la vie, devant la façon de marcher, la façon de bouger, la façon de s'exprimer. Tout ça est beaucoup plus important pour moi que le vêtement. Il y a toute une catégorie de femmes évidemment que je voudrais transformer. Je déteste les bourgeoises, je déteste leur esprit, leur intransigeance. Leur goût aussi, oui. Bien, elles ne s'habillent pas, enfin, elles sont très ennuyeuses, elles ont toujours un rang de perles ou une broche accrochée quelque part. Et puis c'est tout ce qu'on voit d'elles. Et des cheveux bien peignés, bien coiffés.
Yves Saint-Laurent, en 68, dans l'émission Dim Dam Dom sur le RTF, c'est une archive que vous avez choisie. Betty Catrou, archive délicieuse et à charge contre les bourgeoises. Je crois qu'elle vous amuse, cette archive.
Elle est géniale. Et moi, je suis le gros lot pour lui. Ouais. Alors.
Qu'est-ce que c'est pour vous, une bourgeoise?
Ben, c'est ce que Saint-Laurent décrit. Quelqu'un de plein de principes et politiquement correct, bien coiffé, qui fait ce qu'il faut faire, qui dit ce qu'il faut dire.
Alors ne pas se conduire comme une bourgeoise, ça voulait dire faire tout le contraire de ça?
Mais évidemment, c'est être suivre ses impulsions, être libre. Ça le fascinait évidemment chez moi.
Ça voulait dire choquer aussi?
Aussi, alors si on peut, c'est très amusant de choquer.
Quand est-ce que vous avez choqué? Donnez-nous un exemple.
Il paraît que j'ai choqué beaucoup, moi je m'en rends pas compte.
Pas jamais.
Parce que je suis très spontanée, je dis des choses que personne n'ose dire très souvent. Et puis je me sens très libre, parce que d'abord je ne travaille pas. Alors ça me donne une énorme liberté, personne ne peut me renvoyer. Et je suis un peu intouchable.
Vous êtes resté l'enfant gâté que vous étiez quand vous étiez
petit? Je suis resté, oui.
Qu'est-ce qui vous choque, vous? Personnellement.
Oh, ce qui me choque, c'est simplement les choses tristes qui se passent en ce moment.
Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes choquée, Betty Catrou?
Bah écoutez, je bois un coup.
Vous êtes irrécupérable. Il m'a pas échappé que parmi les critères qui entrent dans la définition de la bourgeoise selon Saint-Laurent, il y a un critère capillaire. Quel rapport est-ce qu'Yves Saint-Laurent entretenait avec les cheveux?
Ah, il était obsédé par les cheveux propres. Il voulait absolument avoir les cheveux propres toujours.
Mais oui.
Pas de laisser aller, quoi.
Mais c'est un rapport quasi obsessionnel. Il y a même une lettre où il vous intime de vous laver les cheveux.
Ça, c'était quand on était en rehab à l'hôpital américain. On était tous les deux sous perfusion. Il venait me voir en disant « lave-toi les cheveux ». C'est pratique de se laver les cheveux quand on est sous perfusion dans un lit d'hôpital. Mais en tout cas, il était assez obsédé par ça.
C'est rock'n'roll, en fait.
Très rock'n'roll.
Est-ce que vous l'avez inventé, le rock'n'roll? Ça, je me pose la question, là, en vous interviewant ce matin.
Non, mais moi, je peux pas, je n'analyse rien de ce que je fais dans la vie.
Il les aimait, vos cheveux, Yves Saint-Laurent?
Bah, je crois qu'il aimait tout de moi.
Et vous, quelle était la chose que vous préfériez chez lui?
Son humour.
Il était drôle.
Ah, il était à mourir de rire. Incroyable.
Par le langage? Par ses mots d'esprit?
Tout, les mimiques, le langage. Cette façon de se moquer de tout le monde.
Oh, il faisait pas des galipettes et des cabrioles, je suppose.
Ah, je l'ai vu faire ça à Marrakech.
À Lourdes. Oui.
Des galipettes et des cabrioles, bah, après avoir fumé un peu ou je sais quoi. Oui, des galipettes et des cabrioles.
Rien ne va.
Il est même monté sur des tables. Enfin, oui, comme des enfants.
Ses yeux aussi, ses yeux bleu clair.
Oui.
Qu'est-ce que vous ressentiez quand il vous regardait?
J'étais ravie.
Ah, c'est quelque chose, ça.
Oui, non, enfin, c'est très flatteur d'avoir un type génial à vos genoux, mais j'ai jamais analysé la situation. Je me suis dit que j'avais beaucoup de chance, que j'ai jusqu'à aujourd'hui. J'ai une chance folle dans la vie.
On va reparler de regard, de façon de regarder, d'amour, juste après. Allez, Lou Reed et le Velvet Underground, Pale Blue Eyes, c'était en 1969. Vous êtes sur France Inter avec Betty Catrou, vous écoutez Boomerang, et vous en avez de la chance.
Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. Thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on. Your pale blue eyes. could make the world as pure and strange as what I see, I'd put you in the mirror I put in front of me, I put in front of me linger on.
Sur France Inter. Augustin Trapenard.
Bah écoutez, c'est simple, comment la décrire? C'est une frange immaculée, blonde, warholienne, propre, évidemment, des lunettes noires, quelque part, entre la mère de Lady Gaga, la cousine de Nico, du Velvet, et Saint-Laurent himself, longue comme une liane de l'Amazonie, vaporeuse comme un smog londonien, grisante comme un Moscow Mule, toute de noir vêtue, blouson en cuir, t-shirt noir, pantalon noir, Saint-Laurent, évidemment, Betty Catrou, invitée de Boomerang pour l'exposition qui lui est consacrée au musée Saint-Laurent. Betty, on l'a compris, sans vous, Saint-Laurent n'aurait peut-être pas été Saint-Laurent. Mais sans Saint-Laurent, qu'est-ce que vous seriez devenu, vous, à votre avis?
Oh, écoutez, c'est une question impossible, ça. Comment savoir ces choses-là?
Qu'est-ce que vous vouliez faire?
Rien. Je n'avais qu'un rêve dans la vie, c'est de ne jamais travailler.
Oui.
Et voilà, je n'avais aucun don particulier jusqu'au jour où j'ai découvert la danse. Mais je m'en tire bien, mais je n'ai pas le don qu'il faut pour... Je savais que je n'avais pas le don qu'il fallait pour faire une carrière dans la danse.
En revanche, le don et le talent, c'est quelque chose que vous admiriez chez les autres. Vous vous entouriez de gens avec des talents.
J'ai toujours attiré, malgré moi, des gens de talent. J'ai beaucoup de chance. C'est peut-être un talent d'attirer le talent. Mais ouais, ça, je l'ai.
Le talent d'Yves Saint-Laurent, c'était quoi pour vous?
C'est un artiste... Et c'est un visionnaire, un sociologue.
Un sociologue?
Ben oui, il a fait évoluer les femmes. C'est une façon d'être un peu sociologue. Il a compris l'époque.
Et quand, assise au premier rang de ces défilés, vous regardiez ces collections, qu'est-ce que vous ressentiez? À quoi vous aviez l'impression d'assister? Dans quel état est-ce que vous étiez?
Écoutez, je dormais la plupart du temps, parce que je n'étais pas rentrée le soir. Et je dormais, et je me réveillais quand il y avait un costume d'homme qui passait. Et après...
Vous retombiez en sommeil.
Exactement.
Dans quel état est-ce qu'il était, lui, à l'approche de la présentation d'une collection, d'un défilé?
Ah, oh bah écoute, il était dans un état épouvantable. Follement angoissé, déprimé, il faisait la gueule, il était infernal. Et il allait voir sa psychanalyste. Il était infernal. De toute façon, c'est quelqu'un qui avait un caractère un peu difficile.
C'est vrai qu'il vous a demandé en mariage un jour?
Absolument. Chaque fois qu'il avait trop bu ou Dieu sait quoi de ce genre, il me demandait de divorcer et de l'épouser. Il n'en était pas question de toute façon. D'ailleurs, je suis mariée depuis très très longtemps avec un homme que j'adore. Et je suis très heureux. Ma vie privée est très heureuse. Ça aussi, ça a été une colonne vertébrale fabuleuse pour une vie aussi de débauche.
Et pourquoi est-ce que vous n'auriez pas pu l'épouser?
Mais quelle horreur! Rien au monde. On peut pas avoir un pire partenaire que Saint-Laurent.
Mais pourtant, vous l'adorez.
Mais ça n'a rien à voir. Un homme tout le temps malade, tout le temps en train de tomber par terre, ou tout le temps... Enfin, moi, je peux pas. Je suis déjà à la base un peu comme ça, moi, un peu déséquilibré. C'est impossible.
On n'épouse pas son double.
Non, non. Impossible, un type comme ça. Un cauchemar.
Défiler pour Saint-Laurent, ça vous est arrivé, Betty Catrou?
Non, j'ai refusé.
Ah bon?
Quand je l'ai rencontré, il m'a demandé de défiler pour lui, j'ai refusé.
Oui, ça c'est vrai, la première fois. Mais après?
Ah, mais après encore plus. Après, il m'a amené en voyage, j'ai fait des photos pour lui. Mais défiler, c'est une autre chose. C'est une chose très humiliante de défiler.
D'ailleurs, vous avez défilé pour Chanel.
J'ai défilé, j'avais 16 ans. Et j'ai défilé pour Chanel. C'est humiliant.
Mais pourquoi?
Mais parce que ma phrase que je répète toujours.
Mais vous aviez des numéros à l'époque, c'est ça?
Exactement, comme les vaches au salon de l'agriculture. Exactement. Vous avez compris maintenant?
J'ai compris. Coco Chanel, comment vous l'aviez rencontrée?
Écoutez, elle était amie d'une amie de ma mère avec qui ma mère jouait aux cartes, tout un groupe de dames très élégantes, et une était amie de Chanel, et Chanel cherchait des filles un peu qui sortent du contexte de la normalité. Et alors, on m'a envoyé là, j'avais 16 ans, et j'étais fascinée. Et puis, elle a eu un petit coup de foudre pour moi,
ah
encore
bon
un talent
c'est pas
que j'attire. Et j'ai passé 2 ans là, et elle a été merveilleuse, parce qu'elle est un personnage extraordinaire.
Elle terrorisait tout le monde ?
Tout le monde. On voulait être la favorite.
Elle vous faisait un peu peur ou pas ?
Moi, un peu, oui.
Je vous demande si vous aviez peur, parce que j'ai l'impression, à vous interviewer, que vous n'avez jamais peur.
C'est-à-dire que c'est des extrêmes. J'ai peur de tout. Alors, à partir de ça, on peut avoir peur de rien aussi. Moi, j'ai peur, le matin, avant de sortir de chez moi, j'ai peur d'aller dans la rue. Puis après, ça s'estompe, et puis mon cours de danse arrange tout. Ça, c'est mon Prozac.
Mais c'est un cours de Zumba ? C'est un cours de quoi ?
Mais quel Zumba ?
Quel type de danse ?
Du jazz.
Du jazz, ah bah voilà.
Mais ouais, quelle horreur ce mot Zumba.
Bah je sais pas, mais c'est une très belle
mais
danse,
non,
la Zumba.
Mais non.
Bah moi, personnellement, je fais de la Zumba. Dans mes moments intimes, non, je plaisante.
Mais c'est pas sérieux, j'espère bien. C'est pas sérieux. Et ma danse, pour moi, c'est très sérieux. C'est la grand-messe, enfin. Je pense à moi comme une artiste, enfin. Je rentre dans un espèce de trip.
C'est le mouvement.
Et puis c'est le mouvement. J'adore m'exprimer avec mon corps.
C'est la vie.
C'est le Prozac. Après le cours de danse, j'embrasse tout le monde.
À bien des égards, Betty Catrou, vous êtes une série vivante. Yves Saint-Laurent, Loulou de la Falaise, mais aussi Pierre Berger nous ont quittés. Entre nous, est-ce que vous pensiez que vous seriez la dernière?
Écoutez, je ne pense jamais à des choses comme ça. C'est un sujet que j'essaie d'éviter et d'y penser. Et je peux pas répondre à ça.
Qu'est-ce qui a disparu avec eux? Une époque?
Une époque, oui, parce que je pense pas qu'ils auraient vécu cette époque. Pierre Berger, oui, parce qu'il aimait aujourd'hui. Mais Yves et Loulou, je crois, préféraient l'époque d'avant.
C'est une question qu'on se pose souvent, ce qu'il en reste de cette époque, de cette désinvolture, de son insouciance, de ses transgressions aujourd'hui.
Bah, il ne peut rien rester, ça serait scandaleux que des gens se comportent comme ça. On vit une époque où il n'y a que du malheur et des choses difficiles. Moi, j'ai presque honte de raconter cette histoire d'éternel amusement, éternelle folie. Enfin, c'est gênant.
Il faut bien que jeunesse se passe.
Oui, je sais, mais enfin, c'est vraiment maintenant cette insouciance qu'on avait. On peut pas être comme ça maintenant, il n'y a que des choses grave, maintenant.
Pourtant, vous l'avez gardée, quand même, cette insouciance, je trouve.
Ah, mais parce que j'ai beaucoup de chance. J'ai été protégée toute ma vie. C'est un conte de fées, ma vie. J'ai une chance folle.
Sur des mots d'Yves Saint-Laurent, que j'aimerais qu'on termine cette émission, des mots qu'il vous adressait, et que vous allez nous lire, si vous le vouliez bien. C'est une lettre.
Betty, mon amour, avec le crayon avec lequel je dessine ma collection, je te souhaite le plus heureux anniversaire. Un peu seul, puisque je ne serai pas là pour te serrer dans mes bras et t'embrasser de tout mon cœur qui t'aime. Ta photo est près de moi dans ma chambre, sur ma table de chevet. Nous allons essayer d'être aussi heureux que nous l'étions alors. Je vais mieux et je pense à toi. Je te redis mon amour, ma Betty adorée. Ton frère amoureux, Yves. PS, je pense que ce collier te plaira.
Parce qu'il vous a donné un collier, en fait.
Il m'a donné tout, des bijoux, tout. Et vous savez quoi? Je déteste les bijoux.
Ça m'a étonné, évidemment.
Vous
les relisez souvent, ces lettres, Betty Catrou?
Non. Mais non, je ne vis pas dans le passé. Je les ai.
Vous les avez gardées, quand même.
Écoutez, on ne peut pas ne pas garder. C'est des monuments historiques, ces lettres. Et il y en a une où il me dit merci d'exister. Enfin, des choses hallucinantes. Enfin, c'est grisant. Quand on a la déprime, il n'y a qu'à relire. Et on est d'une humeur de rose.
Quelle est la chose la plus intime qu'il vous reste de lui?
Je ne peux pas répondre. Il faudrait que je réfléchisse des heures, donc ça ne serait pas spontané.
Je pensais à un smoking, moi.
Ah oui, mais vous pensez à des choses terre à terre.
Vous me connaissez.
Ah oui.
Je suis terre à terre,
non,
moi.
Pas assez, justement. Bon, je ne sais pas, mais je ne pense pas aux vêtements, donc ce n'est même pas un smoking.
Oui, enfin, dans cette immense donation que vous avez faite à la Fondation Yves Saint-Laurent, il y a des prêts. Il y en a certains que vous voulez garder.
J'ai gardé, oui, 4 ou 5 choses, mais ça c'est parce que mon mari, qui est décorateur, m'avait fait un petit musée chez moi.
Un musée pour quelqu'un qui n'aime pas vivre dans le passé, vous deviez être ravie, Betty.
Non, j'étais très déprimée, c'est pour ça que je suis ravie de l'avoir vidé.
Oui,
mais en tout cas, à ce moment-là, bon, c'était comme ça. Et Yves voulait beaucoup que je garde les choses pour continuer à les remettre. j'ai pas continué à les remettre.
Alors il y a un smoking.
Ah, oui.
Un smoking que vous voulez absolument garder. Et sur l'étiquette derrière, je pense que c'est un prototype. Hein.
C'est tout des prototypes. Oui. Parce que c'était la grande finesse, c'était de prendre des prototypes. Parce que les prototypes avaient été travaillés par la, avec les mains. Et ça suivait le corps. Les vêtements neufs, c'est comme des carcans. Et les prototypes, c'était, ça avait tout le charme d'un vêtement vécu.
Qui est-ce qu'il avait porté, ce prototype ?
Oh, j'ai oublié.
Jerry Hall.
Ah ben voilà.
Et vous l'avez gardé ?
Et je l'ai gardé parce que c'est le smoking le plus masculin que j'ai. Parce que c'est double boutonnage. Alors c'était le comble. C'est les costumes d'hommes, maintenant...
Ça veut dire une veste croisée ?
Une veste croisée. Je trouvais ça le comble du macho. Alors je l'ai gardé.
Le comble du macho, oui. J'aimerais bien qu'ils soient comme ça les machos. Merci infiniment Betty Catrou d'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle que l'exposition Betty Catrou Yves Saint-Laurent féminin singulier est au musée Yves Saint-Laurent jusqu'au 11 octobre, carte blanche à Anthony Vaccarello, le nouveau directeur artistique de Saint-Laurent. C'est un parcours extrêmement émouvant. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
Il y avait un homme ce matin, comme hier d'ailleurs. Il y avait un homme ce matin, sur le cul. Il y avait un homme ce matin, ainsi une femme sur le cul. Comme hier d'ailleurs. Il y avait 10 hommes ce matin, ainsi que 10 femmes sur le cul. Des enfants couraient mignons après les pigeons qui s'envolaient.
Bertrand Belin sur le cul.